Et la farandole, comment finissait-elle? Elle se déroulait, interminable, sur la place, puis dans les venelles obscures s'étirait, pour se perdre confusément dans les banalités charnelles. Les tripudianti. L'idée lui était venue de fonder une bande de tripudianti. Dirait-on la bande de trépigneurs? Pas tout à fait. Le tripudium était sans doute un souvenir de la danse sacrée des frères Arvalès. Et qu'était-ce au juste que les frères Arvalès? Ils demeuraient mystérieux. On savait qu'ils formaient une confrérie religieuse qui datait de Romulus et célébraient au mois de mai de chaque année une fête en l'honneur d'une déesse agricole. Les cérémonies duraient 3 jours. Le deuxième consacré à des jeux et en particulier à des danses accompagnées de chants. On a beaucoup écrit là-dessus. Les chants n'étaient déjà plus compréhensibles au temps d'Horace. Mais pour la danse elle-même, le fameux tripudium sacré, on pense qu'elle était à 3 temps. Le premier fortement marqué du talon. Faut-il voir là l'origine des dactyles et des spondées de la prosodie gréco-latine? On a été jusqu'à dire que presque toute la poésie indo-européenne en a gardé la cadence, ce qui ferait remonter cette danse bien au-delà de la fondation de Rome. L'écho s'en perpétue encore aujourd'hui dans certains vers latins ou grecs correctement scandés. De toute façon, la compagnie des tripudianti d'Assise s'en donne à cœur joie, sous l'exaltante impulsion de son meneur de jeu, à la fête de Sant'Ercolano. Et bien entendu, François danse en tête en chantant de cette voix qui s'entend loin. Jusqu'où tout cela allait-il? Comment le savoir? Il y avait de la joie panique dans ce pas martelé. À Pérouse, la danse du tripudium avait été plusieurs fois interdite. Elle donnait en effet prétexte à d'indescriptibles confusions des sexes, et cela jusque dans les églises où le délire général menait la jeunesse. Une bulle papale devait condamner expressément ces nuits de Pérouse dans ce latin sans détour qui dévoile la vérité. Cette fête païenne avait-elle le même caractère lorsque François s'en faisait le chef? Son éloignement pour toute vulgarité pose un problème. L'idée que la tradition nous donne de lui ne cadre pas avec certains excès. Qu'il ait eu ce que pudiquement on appelle des faiblesses nous paraît plus que probable. Mais encore une fois, il était autre. S'il chantait des chants d'amour, un double sens mystique s'y mêlait parfois, sensible aux seuls initiés. L'inévitable dame célébrée par les troubadours demeurait l'inaccessible idéal de ses élans de l'âme, aux dépens du corps réduit à la continence. Le mariage eût terni le bel amour qui ne s'accomplissait que dans la mort, et l'acte charnel en était banni. C'était cette chasteté volontaire que chantait Chrétien de Troyes. Mais j'étendais à vouloir ainsi, que je souffre agréablement, et tant de joie en ma douleur, que suis malade avec délice. Quel effet pouvait avoir sur François cette griserie médiévale du cœur et du cerveau? Plus d'une fois, il avait fait allusion à une bien-aimée mystérieuse. On en souriait autour de lui. On soupçonnait quelque chose de moins éthéré que cette dame fantomatique dont il ne livrait pas le nom. Lui-même, à quel jeu sentimental s'adonnait-il? Rêvait-il encore à la princesse délivrée par Saint-Georges? L'amour de longue attente et de chasteté. Qu'était-ce que cette obsession de troubadour? Les troubadours. Il faudrait s'arrêter un instant à ces personnages énigmatiques qui sont à l'origine de la poésie européenne du XIIe siècle. Ce que nous savons d'eux pose des questions qui n'ont jamais reçu de réponse définitive. Ces jeunes gens, qu'une tradition romantique nous fait voir sous un aspect généralement gracieux, pouvaient être brutaux et violents, et n'en étaient pas moins des poètes délicats dont les vers, même traduits dans notre langage moderne, gardent une fraîcheur étonnante. La noblesse s'amusait de leurs cantilènes et leur ouvrait ses portes, en particulier les barons dont ils feignaient de courtiser la femme sous leurs yeux. Mais selon les formes d'une métaphysique amoureuse, qui faisait d'elle la créature inaccessible par qui Dieu se communiquait à l'homme. La dame, éternellement lointaine, servait de prétexte à toutes les subtilités érotiques qu'autorisait la poésie dite courtoise. Dans ce langage, tour à tour